Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter Yann ce matin, Yann Rutter, et puis sa femme Thierry qui est ici à côté d'Isabelle, puisqu'en fait Yann a souvent rendu visite à notre église. Yann et sa femme sont membres de l'église de Crossroads. Pendant plusieurs années, Yann a été aussi membre du conseil d'anciens de l'église de Crossroads. Mais lorsque je pense à Yann, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je le connais, il y a deux choses qui me frappent beaucoup lorsqu'on regarde un petit peu le ministère et les ministères dans lesquels il s'est engagé. La première, c'est le souci de vraiment partager la parole de Dieu à nos contemporains. Et pendant de nombreuses années, Yann et sa femme ont travaillé parmi les étudiants sur des campus, avec Campus pour Christ, entre autres, pour propager cette parole. Mais depuis qu'ils ont quitté ce ministère et sont installés dans la région ici, ils ont continué à le faire par des ministères comme Alpha. Vous savez qu'il y a cette série de cours pour faire découvrir l'évangile à nos contemporains. Et ça, c'est quelque chose dans lequel ils persévèrent encore continuellement. Persévèrent aussi dans les cours Elle et Lui, qui est le cours Alpha pour les couples. Mais la deuxième chose, peut-être, qui est un petit peu moins connue de Yann, c'est en fait... Il y a toujours un certain nombre de personnes comme ça qui aiment l'Église, quelle que soit leur dénomination et quel que soit leur arrière-plan. Beaucoup d'entre nous, on est confortable dans notre dénomination et notre famille d'Église. Yann, me semble-t-il, aime toute l'Église. Il aime toutes les dénominations. Il aime là où les chrétiens sont nés de nouveau et grandissent. Yann est maintenant directeur européen pour une mission qui s'appelle Alongside, qui signifie être aux côtés d'eux. Et c'est une mission qui veut encourager, soutenir les églises là où il y en a le besoin, pour former des personnes, pour prier pour elles, pour les encourager. Et cette mission travaille dans une dizaine de pays, dont la plupart sont en Europe. Et c'est en fait, moi j'ai connu de nombreuses personnes qui ont travaillé avec cette mission, mais qui viennent tout simplement... aux côtés d'églises qui ont besoin de cette aide pour les soutenir et pour les encourager. Donc si je peux laisser simplement deux choses de Yann et de sa femme ce matin, c'est cet amour pour l'église de Jésus-Christ, où qu'elle se trouve, mais aussi la passion de proclamer la parole de Dieu. Yann, merci beaucoup d'être venu ce matin et je te laisse la parole.
Bonjour, merci beaucoup Jean pour ces paroles d'introduction. Tu me connais mieux que j'imaginais finalement. Je connais beaucoup de choses concernant nous concernant et concernant notre histoire. Et je pense même que tu as vu un petit peu notre cœur aussi. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est un signe d'amitié sincère. Voilà, ben c'est vrai, ça me donne beaucoup de plaisir d'être parmi vous. Je suis venu plusieurs fois dans cette église, mais jamais à ma... Enfin, dans mes souvenirs, je n'ai participé au culte. C'était assez... Pourquoi? Je ne sais pas. On est toujours, souvent à Crossroads, on est souvent aussi parti loin. En tout cas, on est dans le pays des Jacques depuis une douzaine d'années. Je pense que John nous a bien présenté, comme j'ai dit déjà, mais il a oublié une chose, c'est que d'abord, je suis anglais. Voilà, donc je suis anglais et Thierry est américaine et nous nous sommes rencontrés en France, à Lyon justement, quand on travaillait en milieu universitaire avec les étudiants. Et puis je voulais dire, c'était une grosse surprise, une belle surprise que j'ai vu entrer tout à l'heure Noëlla, qu'on connaît bien puisqu'on était justement et on est toujours dans la même équipe Agapé France avec Jean-Philippe qu'on connaît moins bien parce que c'est tout nouveau, ils sont nouveaux mariés, si vous ne les connaissez pas, félicitations encore. Mais je sais que vous connaissez depuis un certain temps aussi Noëlla et vous suivez le travail d'Agapé sur le campus universitaire. Est-ce que ça va? J'ai le sentiment d'être un peu un extraterrestre là. Voilà. Alors, j'ai choisi comme texte aujourd'hui. En fait, je n'ai reçu aucune consigne de la part de John ou des anciens. Donc, j'ai cherché un peu, j'ai prié un peu. Et puis, je suis tombé sur un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre. Donc c'est en fait le début de la première épître de Pierre. Je pensais vous la lire d'abord, vous pouvez suivre si vous voulez. Je lis dans la version second révisée, je crois. Dans la première épître de Pierre, et je vais lire dans les 12 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers
est dispersé dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Cette lettre tout entière, la première épître de Pierre, s'adresse d'emblée à tous les chrétiens et donc à nous. C'est une lettre circulaire qui ne traite pas de problèmes spécifiques comme certaines lettres de Paul, par exemple, mais qui est envoyée à la diaspora chrétienne, à ceux qui sont dispersés dans toute l'Asie mineure, c'est-à-dire aujourd'hui dans ce que nous connaissons sous le nom de Turquie, hein, dans le pays de Turquie, la Turquie actuelle. Ces chrétiens étaient d'origine païenne. Et il est probable même que l'apôtre Pierre ne les a jamais rencontrés personnellement. Mais ce qu'il leur dit a une portée universelle qui résonne encore aujourd'hui. J'ai trouvé intéressant donc de choisir ce texte et cette épître pour cette raison-là. C'est aussi une épître et un texte également où on retrouve des exhortations à tenir ferme dans les épreuves, à persévérer, à vivre d'une manière sainte, à suivre l'exemple de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Ça peut nous encourager dans la vie de tous les jours. Et finalement, et surtout, je vais surtout souligner cela ce matin, cette lettre offre une vision très complète du salut qui a été accompli en Christ et qui est maintenant offert à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Je pense que souvent nous avons une vue un peu trop étriquée du salut. Vous savez, il y avait une expression en anglais, pour ceux qui comprennent, c'est très simple, on disait « Your God is too small ». Vous savez, votre Dieu est trop petit, vous avez une image de Dieu trop rapetissée. Et je pense que c'est souvent la même chose pour le salut. Notre vision du salut est un peu étriquée. Nous avons trop souvent tendance à le voir ou à le réduire aux dimensions de notre existence et de notre expérience personnelle. Dites salut, je vous dis salut, vous me dites oui, je me suis converti tel jour. Ou j'ai accepté Jésus dans ma vie. Il m'a sauvé du péché et de la mort. Tout ça, c'est vrai. J'ai une entrée au ciel. Mais quand on répond comme cela, c'est d'une manière entièrement individuelle et individualiste. Et le salut accompli en Jésus-Christ est mille fois plus grand et plus large que cela. Le salut en Jésus-Christ concerne le monde tout entier, je dirais même l'univers tout entier. Pensez, vous connaissez le chapitre 8 des Romains, la création même gémit après le salut qui va être révélé en Jésus-Christ. Ephésiens 1, 9 à 10, le Jésus qui a voulu tout rassembler en lui-même. Et je crois que rien que pour ces raisons-là, cela vaut la peine qu'on se penche sur ce texte de Pierre qui présente ces multiples dimensions du salut. Je vais le prendre en trois parties. Le salut passé, le salut dans le présent et le salut dans l'avenir. Mais d'abord, il y a la salutation. Et déjà, la salutation, c'est un texte très dense, c'est vrai, hein, très compact. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Regardons d'abord quand même la salutation. Parce que dans la salutation, tout est dit, ou presque, concernant notre identité en Jésus-Christ. Tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai bien dit que j'étais anglais. C'est-à-dire, pour dire qui on est, on dit souvent d'où on vient. C'est une façon un petit peu rapide de dire les choses. Et parfois, ça peut conduire un petit peu à des stéréotypes, bien sûr. Je dis, je suis anglais, vous avez une certaine idée de l'anglais avec le chapeau melon, enfin, je sais pas quoi, mais en tout cas, qui va pas représenter forcément qui je suis. Mais quand même, c'est un peu un raccourci pour dire qui je suis. Avec mes enfants, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Parce que mes enfants, ils sont nés d'un père anglais, une mère américaine, ils ont vécu et grandi en France. Alors quand on leur dit « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? » Ils ont un peu de mal à répondre. En France, ils sont considérés comme français, au point où un de nos fils, on a deux fils et deux filles, quand il a dit qu'il était américain, les jeunes, ils ne croyaient pas. Et il a fallu qu'ils parlent anglais pour qu'ils soient convaincus qu'ils étaient effectivement américains. Quand ils sont ailleurs, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, ils ne savent pas forcément qu'ils ont un arrière-plan français. Donc quand à eux, on pose la question « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? » Ils ont à peine à donner une réponse simple. Ils ont en fait une double origine, une double identité. Et cela est vrai pour nous tous qui sommes chrétiens. Nous avons tous une double appartenance. Regardez déjà dans cette introduction, cette salutation. Pierre s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés. On peut traduire résidents temporaires. Nous sommes tous des résidents temporaires de la diaspora. Ils sont à la fois citoyens de Pont, de Galatie, de Cappadoce, de Bithynie, tous ces pays qu'on ne connaît plus. Mais ce sont aussi et surtout des élus de Dieu. Ceux qui ont été choisis selon la préscience ou le dessein, si on veut, de Dieu. Ils ont cette double identité. Et nous tous qui sommes chrétiens, vous êtes, la plupart d'entre vous en tout cas, vous êtes français et vous êtes chrétiens. Je suis anglais et je suis chrétien. Nous sommes citoyens à la fois de ce monde-ci, mais nous sommes citoyens également du monde à venir, d'un autre monde, un monde qui est déjà venu, qui a fait irruption chez nous. Et de ce fait, comme disait un des commentateurs, des écrivains que j'ai lus en préparant cela, dit à la fois, nous sommes dans ce monde témoins de notre monde. C'est presque malgré nous. Si notre identité est en Christ, nous sommes d'emblée témoins de notre monde et qui est pour nous la réalité ultime. Ce monde-là, et la réalité ultime, ce monde-ci, est un monde qui va passer, qui est temporaire. Alors, ce n'est pas toujours facile à gérer, parce qu'il y a une tension, parfois, entre les deux, qui rend les choses difficiles à vivre. Mais je voulais souligner ici, et c'est dit dans la salutation, justement, que cette perspective sous-tend tout le Nouveau Testament. Pensez à l'enseignement de Jésus, les béatitudes, l'annonce du royaume. Le royaume de Dieu est arrivé. La prédication des Actes, les épîtres de Paul, tout souligne cette double réalité. Et puis cette formule, juste pour compléter la formule, la salutation, elle est trinitaire du début à la fin. C'est-à-dire qu'elle nous rappelle que le salut est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Par la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Quelle belle introduction à une très belle lettre. Alors maintenant, nous allons voir les dimensions, toutes les dimensions, les trois dimensions du salut en Jésus-Christ. Dimension passée, présente et future. D'abord, passé. Le salut déjà accompli en Jésus-Christ. Versets 1, 3 à 5. Béni soit Dieu qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pierre rend grâce à Dieu d'abord parce qu'il nous a fait renaître, peut-on dire aussi régénérer, faire renaître par la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Cette phrase est intéressante pour moi parce que quand on entend le mot régénération, renaître, on pense souvent, spontanément, on pense à Nicodème, on pense à Jésus avec Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Il faut que tu sois né d'en haut. Mais ici, je pense que Pierre insiste davantage sur la réalité objective de notre régénération en Jésus-Christ. C'est grâce à sa résurrection, événement historique ancré dans le passé, que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension et dans une nouvelle vie. La résurrection est la clé de voûte de la foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Mais pour Pierre, je pense que la résurrection avait une résonance toute particulière. Pourquoi ? Pensez à lui, pensez à Pierre, l'apôtre, on l'a dit tout à l'heure, qui a renié son maître. L'apôtre qui a dû s'en aller, s'enfuir en pleurant amèrement parce qu'il disait qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais le même apôtre qui va, deux jours plus tard, à l'entrée du tombeau, il va rentrer dans le tombeau, il va trouver que le tombeau est vide. Le sépulcre est vide. Écoutez ce que dit Luc, l'évangéliste, concernant Paul, concernant Pierre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et pensez encore à Pierre le jour de la Pentecôte, la venue de l'Esprit. Et là, c'est un homme transformé. Il a vu le Christ ressuscité. Il a vu le tombeau vide. Et surtout, il a reçu maintenant le Saint-Esprit et il va prêcher avec puissance, sans aucune peur, intrépide devant une foule qui pourrait être Il pouvait être hostile même. Donc pour Pierre, la résurrection de Jésus, ce n'était pas une théorie. Ce n'était pas un principe théologique, un article de foi, un mot tout simplement un peu dénué de sens. Pour lui, c'était une réalité qu'il avait vue de ses propres yeux. Il était témoin oculaire. Et voilà, donc pour lui, je pense que évidemment, la résurrection était capitale dans ce qu'il a pu affirmer concernant le salut en Jésus-Christ. La foi du chrétien, la régénération, la vie nouvelle, l'espérance qui l'anime et finalement l'héritage qui lui est réservé, parce qu'il parle d'un héritage aussi ici. Tous sont fondés sur la résurrection de Jésus-Christ et donc sur un événement historique ancré dans le passé, mais qui anticipe déjà l'avenir. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que la résurrection a autant d'importance pour vous que pour Pierre? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous avez des raisons, de bonnes raisons d'y croire? Personnellement, il fut un temps où je doutais de la réalité de la résurrection. J'avais été élevé dans la foi chrétienne, j'avais une éducation chrétienne. Mais il m'arrivait quand j'allais à l'église, on allait dans une église anglicane où on disait le credo, vous savez le credo des apôtres tous les dimanches. À un certain moment, je décidais de ne plus le dire parce que je ne pouvais plus affirmer « je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ ressuscité des morts ». Et donc j'ai arrêté de répéter ces mots. Et puis grâce à Dieu, Dieu m'a mis sur mon chemin des chrétiens qui ont témoigné de leur foi, qui ont pu me présenter des arguments, des raisons de croire. Ils ne m'ont pas convaincu. C'était pas un putain fait deux, c'était pas mathématique. On ne peut pas prouver la résurrection, mais on peut donner des raisons, des arguments, des indices des témoignages de croire. Et si vous avez des doutes encore là-dessus, je vous encourage vivement à vous donner les moyens de vous renseigner, de vous instruire. Il y a une quantité de livres qui existent aujourd'hui, des raisons de croire dans la résurrection, la raison de croire tout simplement. Après, c'est à nous de mettre Dieu en quelque sorte à l'épreuve, c'est-à-dire à lui, à l'inviter à répondre, à entrer dans notre vie. Moi, j'ai compris finalement que si Jésus était ressuscité, il était encore vivant aujourd'hui. Et donc, je peux le connaître aujourd'hui. Je n'avais jamais fait le lien entre la résurrection il y a 2000 ans et ma vie d'aujourd'hui. Mais oui, il est vivant. Je le crois maintenant, fermement. Je crois qu'il est vivant parce qu'il est ressuscité et parce qu'il vit aujourd'hui. Et je peux le connaître aujourd'hui dans ma vie. Béni soit Dieu, dit Pierre, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Ça, c'est le salut fondé, ancré dans le passé. Maintenant, il y a le salut dans le présent. Le salut de tous les jours, vécu de tous les jours. Comment ce salut en Jésus-Christ se traduit-il dans la vie de tous les jours? Dans les versets qui suivent, Pierre décrit très bien l'expérience chrétienne ou l'expérience du chrétien qui vit entre deux mondes, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le temps présent et le temps de la fin, le déjà et le pas encore. C'est cela, il dit au verset 6, c'est cela qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Quelque chose de décisif s'est passé lorsque Jésus-Christ est entré dans notre monde. Avec Jésus, une nouvelle ère a commencé. Et une nouvelle communauté, l'Église, est née. Un nouveau peuple que Pierre décrira plus loin, comme une race élue, chapitre 2, un sacerdoce royal, une nation sainte, ça c'est l'Église. Et nous tous, si nous sommes chrétiens, nous faisons partie de ce peuple, un peuple en marche vers le royaume qui vient. Cependant, entre-temps, nous devons faire face à une autre réalité. Tout en étant membres du peuple de Dieu, nous vivons bien les pieds sur terre. Nous connaissons tous notre lot d'injustices, de souffrance et de mal. Parfois, nous sommes même victimes de persécutions. Nous ne savons pas exactement quelle était la situation des chrétiens adressés dans cette lettre. Nous savons qu'il y avait des persécutions à l'époque, au premier siècle, c'est sûr et certain. Nous savons qu'aux années 60, Néron avait jeté les chrétiens aux lions, aux chiens même. Ils les brûlaient vifs. Plus tard, il y avait d'autres persécutions à d'autres lieux de l'Empire et notamment dans cette région d'Asie mineure. Et de manière générale, on peut dire, je cite encore, les chrétiens étaient de plus en plus mal supportés car la société s'imprégnait profondément de l'idolâtrie qu'encourage le pouvoir impérial. Il y avait une opposition globale de la société. Aujourd'hui, dans nos pays, du moins, nous ne connaissons pas, Dieu merci, ce genre de persécution. Et pourtant, il peut y avoir de l'opposition. Il y en a, on le sait, à la foi chrétienne, au fait qu'on s'affirme comme chrétien, au fait qu'on prenne position sur certaines choses, par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines pratiques. Et il faut être vigilant. Mais il faut être vigilant non seulement par rapport à ceux qui sont dehors ou par rapport au pouvoir public, par rapport à l'État. Je pense qu'il faut être vigilant aussi par rapport à nous-mêmes. Sommes-nous nous-mêmes tentés par certaines idolâtries, l'idolâtrie de l'argent, le culte du succès, la réussite professionnelle qu'on met avant toute autre chose, avant Dieu même, et qui font que nous nous éloignons de l'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et puis, il y a les épreuves que nous connaissons tout simplement en tant qu'êtres humains. Les épreuves que connaissent tous les hommes, la maladie, le chômage, la solitude, la perte d'un être cher, un accident. Toutes ces épreuves peuvent nous arriver à différents moments de la vie. Et il est vrai, comme il le dit ici, que humainement, nous pouvons en être attristés. Et même nous pouvons en souffrir douloureusement parfois. Alors que dit l'apôtre par rapport à cela? comment vivre dans ce monde aussi, comment faire face aux épreuves, je retiens deux choses dans ces quelques versets 6 à 9. Il dit d'abord que dans les épreuves, l'authenticité de notre foi sera mise en valeur. La traduction œcuménique de la Bible parle même de la valeur éprouvée de notre foi. La vraie valeur de notre foi sera testée. C'est vrai que parfois, pas toujours, mais souvent, la souffrance et l'épreuve nous rapprochent de Dieu. Quand nous n'avons plus rien, quand tous les supports sont tombés, alors nous nous raccrochons à lui. Ça peut être un moment de rapprochement. Et Pierre compare même ce processus au passage de l'or par le feu. C'est à travers le feu que l'or est purifié. Tout ce qui n'est pas pur est fondu, brûlé. C'est une belle image, un peu dure peut-être, mais elle a pris encore une nouvelle signification pour moi quand on m'a dit un jour, sache Yann, que quand l'or est dans le creuset, sachez que le raffineur n'est pas loin du feu. J'aime bien cette phrase qui m'est restée. Quand l'or est dans le creuset, le raffineur n'est pas loin du feu. C'est-à-dire que quand vous êtes au cœur de l'épreuve, il faut se rappeler que le Seigneur est tout près de vous. Et deuxième point, je retiens comment faire face aux épreuves. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans voir encore. C'est dans la nature même de la foi, de croire sans voir. Mais je ne peux pas m'empêcher ici de voir encore l'expérience de Pierre, apôtre, qui lui a connu Jésus. Lui, il l'a vu. Il l'a vu ressuscité. Et il s'émerveille d'une certaine manière de la foi de ces chrétiens éprouvés et persécutés, mais qui ne l'ont pas vu, et pourtant, il croit. Il croit encore et il l'aime encore. Et il dit même qu'il tressaille même de joie. L'une des marques de la foi, c'est la joie. Et la foi éprouvée apporte encore plus de joie, non pas parce qu'elle ignore la réalité du mal, de la souffrance dans le monde, mais parce qu'elle entrevoit déjà le monde à venir. Et cela me conduit au troisième point, la perspective future du salut. La perspective future, le salut à venir. Nous voyons en particulier dans les versets 10 et suivants. C'est cela qui marque avant tout la perspective chrétienne sur le monde, sur la vie et sur la mort. Elle est foncièrement, je vais employer un gros mot là, foncièrement eschatologique. C'est-à-dire foncièrement tendue vers la fin. Eschaton, c'est la fin. La fin dans le sens de l'accomplissement. On est tendu vers la fin. Depuis toujours, selon Pierre, les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Je cite le verset 10. L'Esprit du Christ qui était en eux les poussait à chercher les signes des temps pour savoir quand et comment Dieu allait intervenir dans l'histoire. Saint Augustin, un des pères de l'Église, a dit avec d'autres paroles la même chose. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Depuis le début de la Genèse, avec l'appel d'Abraham, jusqu'aux promesses faites aux prophètes concernant la figure du Messie, le salut final, le jour du Seigneur, est attendu, pressenti, anticipé. Mais c'est avec l'annonce de l'Évangile et la prédication de Jésus que les contours exacts de ce salut sont connus, ils sont définis. Heureux sommes-nous, c'est ce qu'il dit en gros ici à la fin surtout, heureux sommes-nous qui voyons des choses dans lesquelles les anges même voulaient plonger le regard. Nous avons vu maintenant toute la splendeur, toute la réalité de ce salut qui est venu en Jésus-Christ. Mais tout cela peut paraître un petit peu théorique quand même, je suis d'accord, un peu théologiquement abstrait. Qu'est-ce que cette perspective d'avenir change pour nous aujourd'hui? Et je vous réponds en un mot, ça change tout. Et pas seulement au plan personnel seulement, ça change au plan de la société. J'ai lu un article récemment, très intéressant. En fait, c'était un discours qui a été donné au Vatican par un rabbin. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, donc c'était déjà intéressant pour cette présentation. Mais le contenu était encore plus intéressant. Parce que c'était une analyse de la crise qui sévit en Europe depuis quelques années, et même peut-être, certains diront, plus longtemps. Et en gros, il dit que le fond du problème, le fond de notre crise, n'est pas économique, il n'est pas politique, il est moral et spirituel. Et il n'en reste pas là. Il va plus loin pour affirmer que l'essor de l'Europe, au moment de la Renaissance et après, reposait en grosse partie sur les valeurs judéo-chrétiennes qui l'animaient. Il compare la civilisation européenne avec celle de la Chine de l'époque. La Chine avait une civilisation avancée, ils avaient fait plein de découvertes, ils avaient développé une industrie naissante. Mais ce n'est qu'en Europe que se sont créées les conditions pour une vraie économie de marché, pour des échanges commerciaux, pour le développement d'une industrie qui allait se répandre et devenir plus tard la révolution industrielle. Pourquoi ? Parce que l'Europe avait intégré dans son âme une perspective judéo-chrétienne du monde et surtout de l'avenir. On avait compris avec cet arrière-plan que le monde est création de Dieu, que la gestion, que le développement de la société, de l'économie, cela dépend de nous, qu'on y travaille devant Dieu, c'est-à-dire c'est à nous d'y participer, mais de manière responsable, d'être les économes, les intendants de la création de Dieu. Et puis, c'est encore plus étonnant, il cite l'exemple, plutôt la conclusion de l'Académie des sciences, l'Académie des sciences sociales de la Chine actuelle, qui récemment a fait une enquête sur les raisons du succès de l'Europe dans le passé. Et au début, il paraît que les chercheurs chinois cherchaient donc le secret du succès de l'Europe. Ils pensaient que c'était parce qu'on était plus fort militairement, qu'on avait plus de puissance, plus d'armement. Ensuite, ils ont conclu que c'était parce qu'on avait un meilleur système politique. Et après, ils imaginaient que c'était le système économique qui était la clé du succès. Mais finalement, et en conclusion, ils ont dit, nous avons finalement compris que le cœur de votre culture, c'est la religion, c'est le christianisme. Et c'est pour cela que l'Occident a été si puissant. Ce sont les Chinois qui tirent cette conclusion-là, les Chinois d'aujourd'hui. Les fondations morales de la société inspirées de valeurs judéo-chrétiennes ont rendu possible l'émergence d'une société développée de principes démocratiques fondés sur la liberté et la dignité humaine, toutes des valeurs chrétiennes. Cela est loin d'être théorique. Et nous ne devons pas avoir honte, d'ailleurs, en tant que chrétiens, d'affirmer, de réaffirmer cela dans les conversations que nous pouvons avoir autour de nous. Mais deuxièmement, cela change tout au plan personnel. Lorsqu'on met sa foi en Jésus-Christ, lorsqu'on entre dans son plan du salut, nous avons une espérance nouvelle devant la vie et la mort. Nous l'avons vu au début. Je relis ce texte, verset 3. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous savons où nous allons. Nous avons une espérance qui va au-delà de la mort. Je ne sais pas si cette semaine vous avez entendu, on a appris le décès de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, vous le savez, enfin, le plus âgé parmi nous, qu'il était Premier ministre sous François Mitterrand, c'était le premier, si je ne me trompe pas. Et je me souviens en tout cas de lui, on était à Lyon à l'époque. Je ne connaissais pas grand-chose à sa politique, bien sûr, il était socialiste. C'était un grand bonhomme. Il venait de Lille, il était maire de Lille, il me semble, pendant longtemps. J'ai appris cette semaine à la radio qu'il était fils de bûcheron. Il avait un petit peu la carrure d'un bûcheron aussi. Et il inspirait quand même une certaine confiance. C'était un homme apparemment convivial, sympathique et proche du peuple. Et cette semaine, il est mort. Il était malade, il paraît, depuis un certain temps, et il avait enregistré ses réflexions avant sa mort. Et à vrai dire, c'est assez triste à l'écouter, à l'entendre à ce sujet. Parce que qu'est-ce qu'il dit concernant son espérance? Il n'avait aucune espérance, en fait, devant la mort. Aucune espérance dans le sens plein du terme, dans le sens plein du terme, dans le sens chrétien. Dans le sens chrétien. Voilà ce qu'il dit. Pour lui, il voyait la fin de vie comme la mer. Quelque chose, il dit, je cite, hein, quelque chose qui s'impose à vous, majestueusement, avec sérénité, une très grande force. Je la vois comme j'ai vu la mer pour la première fois. C'est triste quand je l'imagine emporté par cette mer, engouffré quelque part dans ce néant. Il n'avait pas d'autre espoir. C'était la fin de l'existence, un point, c'est tout. Si nous sommes chrétiens, nous n'avons pas cette perspective-là. Celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ est passé déjà dans un autre monde. Il vit dans ce monde-ci, mais il vit aussi avec les promesses et dans l'attente du monde à venir. Si nous sommes chrétiens, nous avons été sauvés. Le salut est une réalité ancrée dans le passé avec la venue de Jésus-Christ dans le monde. Le salut est déjà accompli. Il nous appartient déjà. Mais le salut est aussi une réalité présente. Nous sommes en train d'être sauvés tous les jours, transformés en l'image de Jésus. Nous vivons des combats, des épreuves, puisque nous vivons encore dans ce monde. Mais nous pouvons compter sur la présence de Dieu, sur l'œuvre de l'Esprit qui nous accompagne aux moments les plus difficiles et les plus douloureux de la vie. Nous l'aimons sans l'avoir vu, nous croyons en lui sans le voir encore. C'est une démarche de foi qui nous porte en avant et qui nous permet de vivre tous les jours. Et puis le salut est futur car il va encore être révélé au dernier jour quand Jésus-Christ apparaîtra dans toute sa gloire. Ce salut nous est réservé dans les cieux, et je lis encore une fois, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, prêt à être révélé dans les derniers temps. N'oublions pas cette perspective, cette triple dimension du salut, passé, présent et futur. Je propose qu'on prenne 2 ou 3 minutes, je ne sais pas quelles sont vos habitudes, mais peut-être un moment de silence en tout cas, pour réfléchir à ces dimensions du salut, pour nous poser devant Dieu, pour le remercier si nous avons cette conviction et cette ferme assurance que nous sommes déjà dans ce royaume qui a été inauguré par Jésus-Christ. Et si nous avons des doutes, ou si nous cherchons encore à avoir plus de certitude, si nous avons besoin de plus de confiance dans nos convictions, alors, je vous encourage à en parler avec vos anciens, avec les responsables ou avec moi-même, si vous voulez, à la fin du culte. Je vous remercie.
Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce message que Yann nous a apporté. Merci parce que c'est vrai que tu es le centre de notre vie, ta résurrection et le centre de notre salut. Merci, Seigneur, pour ton œuvre qui est pleinement parfaite. Merci parce qu'elle est aussi notre espérance. Sois loué et sois béni, Seigneur, pour ton œuvre. Amen. Oui, merci Yann pour ce que tu nous as apporté. C'est vrai que cela puisse nous aider à laisser cette œuvre de Christ prendre toute la place centrale dans notre vie, dans nos préoccupations. Je partage avec vous les annonces. Tout d'abord, le programme de la semaine. Alors, lundi, il y a le conseil à 19h30. Merci de penser et de prier aussi pour le conseil. Mardi, ce sont les cellules à 20h30. Alors, la cellule de Collonges va se retrouver chez Pierrick et Lydia. La cellule de Prefsin chez Briand et Hélène Tatford. Et la cellule de Gex se retrouve chez nous. Jeudi, on aura la rencontre de la pastorale, la dernière de l'année, avec un petit repas prié en commun, partagé ensemble. Ce sont aussi des moments riches entre nous. Jeudi, il y a aussi une rencontre de préparation pour le club d'enfants. Donc il va se tenir ici. Club d'été, hein. Club d'été, oui. Ici, à 8h30. Ensuite, samedi, le groupe de jeunes, samedi soir. Je vous rappelle juste la fête des nations. Il y a encore le prospectus au fond de la salle, on en avait déjà parlé. Donc, qui se tient à l'Arena, samedi à partir de 14h.
Le groupe de jeunes, c'est 19h.
19h. Ok. Merci. Donc, 19h avec 20 francs suisses. Et en ayant déjà mangé. Dimanche, café thé. Et puis dimanche, c'est aussi les sorties des écoles du dimanche. Donc, les sorties des écoles du dimanche depuis 10h30 jusqu'à 16h30. Et puis le culte aussi dans cette salle à 10h30. Juste une petite information en avance. Le dimanche 30, qui sera un cinquième dimanche, donc un dimanche de partage avec pique-nique ensuite, il y aura donc l'après-midi une réunion de membres à 14h. Vous pourrez le faire après, oui, c'est sûr. Il y aura encore tout le monde. Sinon, des nouvelles des uns et des autres. Alors, il y a 3 semaines, Jean-Michel nous donnait l'information qu'il partait, qu'il allait partir à Bilbao, donc il est bien parti. Par contre, il nous donnait l'information qu'il partait pour quelques mois, et puis voilà qu'il est déjà rentré. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais enfin, on voulait quand même vous partager cette information, parce que c'est important au niveau de la prière, de penser à eux, penser à leur famille, que Dieu vraiment les conduise aussi pour l'avenir. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres informations à partager, ou bien si j'avais oublié quelque chose.
Pour Mike aussi, là, le pied.
Ouais. Ah oui. Donc pensons aussi à Mike. Pas toujours simple tout le temps. Ouais. Sinon, je vous invite à vous lever et je vais vous lire quelques versets qui sont tout à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse 22. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entende dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et c'est vrai, c'est là notre espérance. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints, soit avec vous tous. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.